Radio Stable.
Morning Edition from NPR News.
Un instinto de la house.
Radio Rosana Pipari.
Lo que se reproduce aquí en la radio.
France Inter. Le 18-20.
Les damnés du Pakistan, savez-vous qui sont les Ahmadis, une minorité religieuse pakistanaise victime d'assassinats ciblés? C'est aussi un courant de l'islam très particulier que vous découvrirez dans l'escale reportage ce soir grâce à Géraldine Allo, sous les radars et Hélène Roussel. Vous l'avez entendu au Vietnam, à Jérusalem et à Londres. L'Europe, on l'aime ou on la quitte. Angélique Boin nous donnera le kit qu'a été cette fois du parfait électeur. Quel âge il a? Quel jour il vote? Et c'est évidemment, si on était tous pareils, ça se saurait. Le monde à l'envers et Jean-Marc Carrefour, avec la Libye qui est en train de devenir la nouvelle Syrie avec une nouvelle guerre par procuration. Avant cela, je vous emmène tiens, justement dans les dédales du Parlement et des institutions de Bruxelles avec un guide. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Saint-Esse. Un jour dans le monde.
Un crime a donc été commis à Bruxelles. On a retrouvé un cadavre dans le Parlement. Ça n'arrive pas tous les jours. Forcément, ça dérange des institutions si bien huilées, si bien rodées. La victime est une députée verte qui travaillait sur une directive diesel très importante. Bonsoir Maxime Caligaro.
Bonsoir.
On cherchait à savoir comment parler d'Europe, forcément, puisqu'on en parle beaucoup et heureusement. Mais un peu différemment, et votre livre est arrivé à un point nommé, ça s'appelle Les Compromis. Vous le signez avec Éric Carder. C'est un polar. Dans les coulisses de l'Europe et des institutions, c'est publié chez Rivage Noir. Une manière au fond aussi pour vous de laisser derrière vous les institutions européennes, puisque vous avez été attaché parlementaire pendant longtemps. Aujourd'hui, vous êtes un peu passé à autre chose. C'est une drôle de manière de dire au revoir que de laisser un cadavre derrière vous, non?
Peut-être qu'on avait accumulé des frustrations,
ouais,
qu'on avait besoin de les coucher sur la
ce
page.
Que ça veut dire.
Peut-être qu'on avait besoin de tuer une députée, je ne sais pas, mais... Moi, quand je suis parti des institutions, j'avais l'impression qu'il y avait plein d'histoires à raconter, que Bruxelles était un terrain vierge et que pour les auteurs, c'était un bonheur. Nous, on a décidé de passer par le polar. Un romancier autrichien est passé par le roman assez mélancolique et en ce moment, on écrit avec un scénariste, Noé Debré, une comédie. Une série sur le Parlement.
Heureusement, donc vous nous rassurez, parfois c'est drôle.
Voilà, non mais Bruxelles, je vous mentirais si tous les eurocrates sont fandards et qu'on se marre beaucoup à Bruxelles, mais les situations qu'ils peuvent vivre sont parfois absurdes.
Mais c'est intéressant ce que vous dites, le fait que vous ayez eu envie d'écrire un polar, que l'un de vos collègues ait eu envie d'écrire un bouquin lui aussi, ça veut dire qu'on manque d'histoire en fait, on manque de chair autour de ce Parlement, ces Parlements d'ailleurs, les allers-retours, les institutions, la Commission, le Parlement, au fond on met pas de visage, on met pas de chair en
Bien
fait.
Sûr. Bien sûr, mais prenez un exemple. Moi, je ne suis jamais allé à Washington. Pourtant, j'ai été biberonné aux séries américaines, aux blockbusters. Et quand on dit Washington DC, j'imagine The West Wing, les hommes du président.
Et vous avez des images en tête.
Voilà. Ouais. Si je vous dis Commission européenne, Parlement européen, vous fermez les yeux, vous voyez quoi? Trois drapeaux bleus qui flottent mollement, des vitres bien lavées. Mais qu'est-ce qui se passe derrière les portes dont on dit qu'elles sont closes des institutions européennes? Nous, on avait envie de raconter ça.
Et alors, en même temps, dans la préface, Daniel Cohn-Bendit, qui a écrit la préface, dit que ce livre n'est pas destiné à faire aimer l'Europe. Et il a raison, parce que quand on en sort, on l'aime pas forcément plus, l'Europe. On va en parler. Je sais pas si on va envoyer les gens voter, au fond, en racontant ce que vous racontez, parce que vous parlez de compromis, vous parlez de lobby, enfin, vous parlez de tout ce qu'on sait, tout ce qu'on connaît, grandeur nature. C'est pas toujours rose, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est même parfois très cynique, en fait, ce qui se passe derrière ces vitres très bien lavées, comme vous dites.
C'est la vie. C'est encore une fois pas un roman à thèse, c'est pas un roman pour ou contre l'Europe. C'est un roman qui raconte les institutions comme elles sont. Et elles sont faites d'hommes et de femmes, donc c'est forcément très imparfait. Et nous, on n'a pas voulu rendre l'Union européenne plus sexy qu'elle ne l'est, mais on a voulu la rendre humaine. Et je pense que chacun projette un peu son Europe. Dans ce roman, des lecteurs très eurosceptiques ont dit que c'était un brûlot anti-européen, qu'on confirmait une gabegie de temps et d'énergie à Bruxelles, tout était confirmé. Des pro-européens nous ont dit « mais enfin, on comprend le temps, la complexité, les compromis, la beauté du consensus ». Donc je pense qu'on n'aimera pas plus l'Europe, mais... On n'a pas envie de la faire détester, mais on ne projettera que ce qu'on pense déjà dans ce roman.
Et effectivement, c'est exactement ça. C'est les deux à la fois, parce qu'il y a parfois, on incitera quelques saillies pro-européennes, mais qui sont aussi, vous avez un personnage qui ressemble un peu à Jean Quatremer, le journaliste de Libé, qui est l'un des journalistes qu'on voit dans votre roman, qui a quelques saillies magnifiques sur l'Europe telle qu'il la veut. Mais votre personnage, celle que vous tuez d'ailleurs, qui s'appelle Sandrine Berger, il y a un côté très opportuniste au fond. Elle a cette directive diesel qu'elle va pouvoir mettre en place. Pour elle, c'est un sacré marchepied. Donc il y a vraiment quelque chose qui dit bah allons-y, c'est notre chance. C'est pas la chance pour l'Europe, c'est pas la chance pour les gens, c'est pas la chance pour se débarrasser du diesel. C'est ma chance à moi parce que je vais pouvoir signer une tribune avec Nicolas Hulot et que au moins je me ferai connaître. Si c'est pas cynique ça?
Bah, c'est un roman, c'est-à-dire que ça produit du sens. Et donc nous, ce qu'on fait, c'est faire discuter des personnages. On a un personnage du Front National aussi, mm-hmm. Un conseiller du Front National qui nous donne sa vision de l'Europe, ouais. qui peut parfois déranger le lecteur. Et donc, on n'a pas voulu nous donner notre opinion sur l'Europe. Il y a plein d'essais qui sortent, Amor l'Euro, L'Europe, notre destin. Mm-hmm. Et il y a des gens qui le font très bien. Nous, ce qu'on a voulu raconter, c'est la vie des hommes et des femmes qui vivent, qui gravitent autour des institutions, qui veulent la faire ou la défaire, et ce qu'on dit, c'est pas notre pensée de l'Europe, c'est ce que beaucoup de personnages pensent de leur quotidien.
On accuse souvent Bruxelles d'être une espèce de grosse machine, de grosse technostructure, et vous avez un personnage à un moment qui dit « Non mais de toute façon, le Parlement est pas là pour faire changer les choses. » Mais du coup, si le Parlement est pas là pour changer les choses, il sert à quoi ce Parlement européen ?
Ah ben, je pense encore une fois, on fait une taxinomie un peu des espèces parlementaires. Donc vous avez l'assistant, très naïf, idéaliste qui est venu là, jeune, pour changer le destin de 500 millions d'Européens. Vous avez le communicant, cynique, retors. Vous avez le fonctionnaire.
Parfait fonctionnaire, très 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 techno.
Le techno, froid, vraiment l'animal politique à sang froid. Et vous avez des élus de toutes les couleurs. Donc chacun donne un peu sa version des faits. Mais si vous faisiez parler à notre assistant parlementaire, il vous dirait que le Parlement européen, c'est l'avenir de l'homme. Mm-hmm. Et que... du père de famille concentré sur la consommation du litre au sang à l'ouvrier romain sur sa chaîne de montage, bah, ce qui va se jouer au Parlement européen, lui qui n'a même pas le permis, bah, ça va changer la vie de 500 millions d'Européens.
Et ce fameux journaliste dont je parlais, qui a de temps en temps des saillies, qui dit par exemple, il s'adresse à un personnage qui est intéressant parce qu'elle est britannique et très attachée à l'Europe et on ne sait pas très bien effectivement ce qu'elle va devenir. Enfin, Lise, c'est son prénom, avoue quand même que ça n'a aucune allure, ce Parlement qui s'exprime sur tout et sur rien, cette commission qui refuse de n'être autre chose qu'une tour de siège de la technocratie et ces chefs d'État qui ne se soucient de ce qu'ils vont raconter à leurs journalistes pendant la conférence de presse. Rude.
C'est un amoureux déçu.
Ouais,
un amoureux déçu de l'Europe.
Mais qui est toujours, donc c'est toujours ça de pris au moins. Vous décrivez aussi jusqu'à quel point les lobbyistes sont derrière chaque porte. Là aussi, on a l'impression que c'est une caricature. Dans votre roman, ce qui est intéressant, c'est qu'au démarrage de cette fameuse directive diesel, le lobbyiste en sait 40 fois plus que vous, l'attaché parlementaire, que la parlementaire pour laquelle vous travaillez et que même le communicant au fond. Les plus au point, ce sont les lobbyistes.
Alors, sur les lobbies, nous, on a pris le thème du Dieselgate parce que ça nous permet d'explorer deux névroses un peu françaises sur l'Europe. C'est, un, la place des lobbies. Deux, la superpuissance allemande. Parce que les moteurs, ça nous permet aussi de parler de la place de l'Allemagne en Europe. Et je pense qu'on ne donne pas de réponse dans ce livre. On ne vous dit pas les lobbies, c'est mal, le lobby, c'est bien, l'Allemagne domine tout ou pas. Mais on donne les clés de lecture. Chacun se fait sa version des faits. Et sur les lobbyistes, moi, en tant qu'assistant parlementaire, j'ai assisté à des séances de lobbytomie où vous avez un
lobbytomie.
Voilà. C'est quand vous voyez les lobbyistes débarquer dans votre bureau. Alors nous, on s'imagine les lobbyistes, les mallettes de cash, la corruption. C'est pas du tout ça. Un lobby, c'est quelqu'un qui va tout vous mettre en perspective. Et donc, vous finissez de cette réunion, et ce qu'on raconte dans ce chapitre-là, avec le vertige. Parce que de temps en temps, vous parlez avec des ONG, vous prenez Fête et Cause pour les poissons, contre la pêche électrique, vous parlez à des pêcheurs, et puis tout d'un coup, vous voyez le nombre d'emplois perdus sur la côte espagnole. Et donc, c'est aux parlementaires d'avoir un compas moral bien aiguisé, mais on s'y perd.
Le livre s'appelle Les Compromis. Vous parlez à un moment dans votre livre d'un arbre de Noël. Expliquez-nous ce que c'est qu'un arbre de Noël. En fait, quand chacun essaye d'apporter sa pierre à une directive, ça marche comment ?
Alors ça, c'est le jargon des assistants parlementaires. C'est-à-dire que quand vous avez un rapport parlementaire, vous le négociez avec, donc autour de la table, vous avez 8 familles politiques différentes, de l'extrême gauche à l'extrême droite. Vous avez plusieurs nationalités. Et pour faire une majorité, parce qu'il n'y a pas de majorité au Parlement européen, il faut en créer à chaque fois, vous êtes obligé de donner un mot qui plaît à chacune des familles politiques. Et donc, en fait, chacun, donc dans votre rapport parlementaire, vous allez parler de développement durable, comme ça vous allez gagner les Verts, vous allez parler de plus d'emplois, comme ça vous allez gagner socialiste, vous allez parler de l'industrie, vous allez gagner la droite. Et à la fin, votre rapport ressemble à un arbre de Noël, ça clignote, ça scintille, ça perd beaucoup en cohérence, mais au moins vous avez une majorité.
Dans l'histoire telle que vous la racontez, moi je trouve ça exemplaire. L'idée, c'est d'essayer de créer une espèce d'agence, en fait, qui est censée dire quelles sont les voitures, je vais caricaturer un peu, qui sont conformes, en gros, qui se conforment à des normes anti-pollution et se débarrasser au fur et à mesure du diesel. Et puis on voit cette directive jusqu'à quel point elle perd de sa substance au fur et à mesure que le livre avance et que la directive avance elle aussi, mais en même temps pas tant que ça. C'est un coup de billard à trois bandes, écrivez-vous. Le premier élément consistait à poser le principe de l'agence qui n'aurait initialement aucun pouvoir concret, si ce n'est celui de produire un rapport annuel sur les émissions dans le secteur des transports et des avis sur les projets de réglementation. Et puis après, on verra. Au fond, c'est vraiment l'art du compromis et c'est l'art du temps. Vous nous rappelez ce que c'est le temps de Bruxelles, le temps européen.
Le temps de l'Europe, oui.
C'est 20 mois, par exemple, pour une directive.
Le temps de gestation des éléphants.
Exactement. C'est beaucoup plus que le temps politique. Et c'est peut-être là aussi que on a l'impression, nous, depuis notre perchoir à nous, que ça avance tellement pas vite et que ça sert à rien parce que le temps politique et le temps médiatique vont 40 fois plus vite que ces fameux 20 mois.
Bien sûr. Bien sûr, oui, non, effectivement, il y a des moments donc dans le roman et on suit pas la lenteur d'une directive européenne, il y a des accélérations, on suit l'enquête, mais on voulait un moment faire de longues marches dans les négociations, les trilogues, quand les technocrates de la Commission rencontrent les diplomates du Conseil et les élus et qu'on négocie ensemble et montrer un peu la complexité. Le consensus ne naît pas comme ça, le compromis ne naît pas comme ça et il faut du temps, il faut négocier. À 28 pays, 27 et demi, la piste d'atterrissage est étroite. Sandrine est tombée devant l'hémicycle, elle est bien tombée, mais les directives tombent parfois à côté et c'est parfois décevant.
Parmi les idées reçues qu'on entend beaucoup sur l'Europe en ce moment, il y a l'idée que, mais de toute façon, 80-90%, voire plus, des lois françaises ne sont que dictées par Bruxelles. Quand on lit votre livre, on se rend bien compte jusqu'à quel point, effectivement, c'est pas vrai. Tout ça se passe très différemment. Comment on fait? Comment vous faites, vous, l'attaché parlementaire à l'époque, pour tordre le cou à ce genre d'idées reçues et expliquer que c'est pas vous, depuis Bruxelles, qui dictez ce qui va se passer au Parlement? À Paris.
C'est impossible. C'est si vous êtes assistant parlementaire, si vous êtes en politique, on ne vous écoute pas. Depuis que je suis auteur, moi je suis marié avec une Anglaise, quand je me retrouve dans un mariage, on m'assoit toujours à côté du tonton Brexit, et quand j'étais eurocrate, on me tapait dessus. Maintenant que je suis auteur, je peux faire un pas de côté, raconter des histoires, des anecdotes d'hommes et de femmes, raconter des dossiers, et là on m'écoute bizarrement.
Mais Maxime Caguero, vous vous rendez compte? On ne m'écoute pas. Ça veut dire que on peut l'expliquer dans tous les sens, cette Europe que vous aimez particulièrement. On peut l'expliquer dans tous les sens, on peut l'expliquer dans toutes les langues, puisque vous êtes marié à une Anglaise. Visiblement, ça marche pas, ça prend pas, ça tient pas. C'est ça que vous êtes en train de nous dire.
Et en tout cas,
sauf si on écrit un roman, polar pour essayer de donner un peu de,
avec mon co-auteur, on avait l'impression que la fiction était le bon moyen de traiter de certains sujets, là, l'Europe. Mais je mesurais, quand j'étais au Parlement européen, la distance qu'il pouvait y avoir entre l'énergie qu'on mettait à négocier des textes jusqu'à 4h du matin et le peu d'impact que ça avait sur le terrain. Je pense que ce roman, c'est peut-être, à notre petite échelle, un moyen de contribuer à ça, d'expliquer l'Europe en la narrant.
Désormais, vous faites autre chose, vous nous l'avez dit. Est-ce que ça veut dire qu'on en sort rincé, en fait? Et que c'est ça aussi qui vous en fait partir, au fond? Parce que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Pourquoi, au fond? Est-ce que vous en êtes sorti rincé?
Non, moi j'en suis parti avec beaucoup d'histoires dans ma besace. Et encore une fois, nous, on a fait un polar. On est en train de travailler sur une série qui sera de la comédie. On peut penser à de la comédie romantique. Il y a de la place pour du roman d'espionnage. Bruxelles est un nid d'espions. Vous avez la Commission européenne a listé, il y a plus de 200 espions chinois, 200 espions russes, sûrement beaucoup plus. Et comme j'ai dit, on peut faire de la comédie romantique. Il y a des histoires d'amour qui naissent dans les couloirs du Parlement européen. Donc moi, je suis parti, pas par des amours de l'Europe, des institutions, mais j'en suis parti avec la conviction, avec mon co-auteur, qu'il y avait énormément de choses à raconter, qu'il y avait beaucoup à donner à voir de ce que c'était que les institutions européennes.
Si vous en gardez une chose, vous, de votre passé de parlementaire, d'attaché parlementaire européen, le vrai joli souvenir, l'anecdote que vous donnez pour montrer que vraiment ça a été un bon moment, vous gardez quoi, vous? Qu'est-ce que vous en gardez de très positif?
Je pense qu'on... Encore une fois, on raconte des histoires d'hommes et de femmes. Moi, j'ai gardé énormément d'amis. J'ai rencontré ma femme à Bruxelles. Donc, je pense que c'est quand même un beau paquet. Et encore une fois, je ne suis pas parti amer. Et dans notre livre...
Votre femme est en train de quitter l'Europe. Je ne suis pas très sûr, en fait, de ce que...
Je ne vous dirai pas pourquoi elle vote. Elle a voté aujourd'hui, mais je ne vous dirai pas pourquoi elle vote ou pour qui. On a beaucoup de tendresse pour tous les personnages qu'on a fait. Que ça aille du diplomate retors au conseiller du FN qui veut détricoter l'Europe, au journaliste fédéraliste, au jeune assistant vert idéaliste. On a de la tendresse pour tous ces personnages parce qu'au fond, moi, j'ai rencontré tous ces gens-là à Bruxelles et j'ai de la tendresse pour eux.
Ça s'appelle Les Compromis. C'est signé par vous, Maxime Caguero, et votre co-auteur s'appelle Éric Carder. C'est publié chez Rivage Noir. Et effectivement, effectivement, d'abord on a envie de savoir qui l'a tué quand même, la Sandrine. Et puis surtout, on apprend beaucoup de choses sur le fonctionnement des institutions européennes, sur les arcanes. Parfois, vous le disiez, on est heureusement surpris, parfois malheureusement surpris, mais c'est aussi comme ça que ça marche. Merci beaucoup.
France Inter, Fabienne Saint-Esse. Un jour dans le monde.
À la suite d'Un jour dans le monde, ça se passe au Pakistan avec une minorité religieuse dont vous n'avez probablement jamais entendu parler. Les Ahmadis persécutés au Pakistan, un courant de l'islam très particulier aussi. Et c'est Géraldine Allot qui nous racontera tout ça dans un instant. C'est un avant-goût de l'émission Interception de dimanche. Sous les radars et Hélène Roussel avec une mamie de 99 ans au Vietnam qui est toute seule face à une centrale à charbon. L'Europe, tiens, on y retourne. Tu l'aimes ou tu la quittes? Justement avec Angélique Boin dans un instant qui nous parlera tous les petits détails du vote qui, rappelons-le, a commencé aujourd'hui. Et puis le monde à l'envers, Jean-Marc Four. Bonsoir Jean-Marc.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
La Libye, nouvelle Syrie, alors une vraie guerre en tout cas dont tout le monde se mêle.
Oui, après le nid d'espions européens, voilà une guerre effectivement où la réalité dépasse la fiction. La Libye, c'est le nouveau terrain de jeu des grandes puissances.
Allez, à tout à l'heure, restez avec nous. Le tour de la planète n'est pas fini. Il passe par le Queens, New York, Leila Makkala. Money is king.
If a man has money today, people don't care if he has Coco Bay. If a man has money today, people don't care if he has Coco Bay. He can commit murder and get off free, live in the governor's company. But if you are poor, people tell you, shoo, a dog is better than you. And that's to take down anything. Whiskey cloth earring and diamond ring. Send it to your home on a motorbike. You can pay the bill whenever you like. And not a soul will ask you a thing. They know very well that money is king. Policemen will take him down too. You see how a dog is better than you.
Money is king, nous dit Leila Makkala sur France Inter.
France Inter.
Good evening and welcome.
Je размахивал копьем.
Un jour dans le monde.
Intervention extra.
Hélène Roussel est sous les radars. On commence avec Hélène, l'histoire d'une battante. Elle a 99 ans, la dame.
Pham Tika est une grand-mère qui tient tête au bulldozer. Dans la baie de Van Phong, au Vietnam, l'État communiste veut construire une énième centrale à charbon. Tous les autres habitants ont cédé et ont été relogés plus au sud, dans des appartements, sans terrain et sans travail. Alors oui, elle a 99 ans et elle est quasiment aveugle. Mais Pham Tika ne se laisse pas impressionner par les fonctionnaires qui défilent chez elle. Ils ont rasé sa maison, ils ont rasé son potager. Tant pis, elle campe dans un abri de fortune au milieu des ruines. Acte de résistance rarissime au Vietnam. Son combat est d'autant plus symbolique qu'il contrecarre un des grands projets nationaux, soit la multiplication des centrales à charbon, ultra polluant mais rentable, comme chacun sait. Véritable aubaine aussi pour les Sud-Coréens, les Chinois ou les Japonais qui accordent des prêts à tire-larigot. Sur les terres de Pham Tika, par exemple, c'est une centrale de 2,5 milliards de dollars financée par le Japon qui doit voir le jour. Elle n'est pas encore construite, mais le terrain est déjà bien déblayé et on voit mal comment la centenaire va bien pouvoir survivre au milieu des fumées.
Allez, il aura suffi d'un soutien-gorge. Quelle histoire incroyable. Pour faire fuir des manifestants ultra-orthodoxes à Jérusalem, c'était le week-end dernier.
Et oui, c'est le Times of Israel qui raconte l'histoire. Samedi dernier, Israël préparait l'Eurovision à Tel Aviv. Les employés autour de l'événement ont donc dû travailler jour de Shabbat. Profanation suprême pour ces ultra-orthodoxes, très en colère, comme on peut l'entendre. Des dizaines de policiers, certains même à cheval, tentent de disperser ce qui commence à ressembler à une émeute. En face, ils sont plusieurs centaines quand même. quand soudain, les policiers reçoivent une aide totalement inattendue des militantes féministes, 4 ou 5 hein, tout au plus, se postent à quelques mètres et enlèvent le haut. Elles restent là, les bras croisés, en soutien-gorge ou en brassière, elles ne font rien d'autre. Et sur la vidéo, ben c'est bluffant, dans les secondes qui suivent, on voit ces ultra-orthodoxes, les uns derrière les autres, s'en aller les yeux baissés, plutôt quitter la manif que de rester face à ces femmes dévêtues. Quel beau pied de nez pour un bout de sein. Moi, ça m'a fait penser à ce chanteur israélien, Yonatan Razel, qui avait fait tout son concert il y a 2 ans, les yeux bandés par du rouleau adhésif, pour ne pas voir les femmes qui dansaient dans son public. Le ridicule ne tue pas, me direz-vous.
Allez, on va se changer les idées, un peu de culture, Hélène, peut-être. Oui, voilà. Vous êtes très générationnel, vous, dans vos chroniques, Hélène Roussel. Ah,
on n'y peut rien. Dragon Ball, donc, hein, qui ouais. Ne vieillit pas, Fabienne, c'est pas générationnel. Cet enfant à queue de singe, figurez-vous, qu'il revient en force dans les cours de récré 2019, si, si. Et oui, bah oui, c'est de la culture. Le manga, c'est même une culture. Londres accueille la plus grande expo de manga jamais vue en dehors du Japon. Elle ouvre ses portes aujourd'hui même au British Museum. Voyage dans l'univers manga, de leurs racines traditionnelles à l'industrie actuelle. Et ça commence, il paraît, dès le début du 19e siècle, avec un certain Okuzai. Oui, bah oui, l'artiste à la célèbre Grande Vague. Dans cette expo, on apprend aussi que le manga est un terme qui peut se traduire par dessin non abouti ou encore caricature, c'est intéressant. Et puis il y a les dessins pour adultes, plus crus, plus violents, comme ces planches qui racontent Hiroshima. Le manga est un moyen simple et populaire de s'exprimer ou de faire passer des messages, comme le dit Gengoro Tagame, un des plus influents créateurs de manga gay. Et sinon, le dieu du manga, c'est qui ? Il s'appelle Osamu Tezuka, papa dans les années 50 d'un personnage emblématique, Astro Boy, devenu Astro, le petit robot sur nos écrans français des années 80.
Qui nous fait vivre de vraies aventures, toujours là quand il faut.
Et puis ça va, nous aussi, Fabienne, on est là quand il faut, non mais...
Bah oui, attendez, Goldorak Go, moi c'est ça ma génération. Enfin bon, et d'autres aussi, allez,
Albator
Hélène Roussel.
Aussi, allez.
Merci, lui-même, absolument.
France Inter,
Doha, Harare, Jérusalem,
Pékin, le 18-20.
Le Mexique est juste derrière.
Un jour dans le monde.
Séoul, Washington,
San Paolo,
Beyrouth, France Inter.
Et c'est au Pakistan que nous emmène l'escale reportage d'un jour dans le monde. Ce soir, je vous emmène aussi à la rencontre d'un courant de l'islam très peu connu, mais terriblement persécuté. Bonsoir Géraldine Allemand.
Bonsoir.
Géraldine, on va pas faire semblant d'ignorer que les minorités religieuses sont très maltraitées au Pakistan. On a tous en tête l'histoire d'Asia Bibi, qui appartient, elle, à la minorité chrétienne. Et vous, pour le magazine Interception, Géraldine, de France Inter, on est heureux d'en donner un avant-goût. Vous vous êtes intéressée aux Ahmadis, alors, qui sont pris pour cible. Qui sont-ils d'abord, ces Ahmadis ?
Alors, les Ahmadis sont environ 600 000 au Pakistan et 10 millions dans le monde. L'ahmadisme, c'est un courant de l'islam qui croit en un messie postérieur à Mahomet. Et donc, les Ahmadis sont considérés comme hérétiques dans de nombreux pays musulmans, en premier lieu au Pakistan. Les Ahmadis prônent la laïcité et la non-violence.
Donc, assassinat ciblé, expropriation, licenciement, accusation de blasphème, à tel point que des milliers d'Ahmadis fuient pour se réfugier dans la ville berceau de leur communauté, dans le centre du Pakistan. La ville, elle s'appelle Rabwa. Et c'est là que vous nous emmenez, Géraldine.
Pour aller à Rabwa, il faut faire preuve de discrétion, car la ville est interdite aux journalistes. À la nuit tombée, prendre l'autoroute vers le sud, à partir d'Islamabad, puis une petite route poussiéreuse où des camions bariolés croisent des tracteurs tellement chargés en ballots de paille qu'on se demande comment tout cela tient. Rabwa, 65 000 habitants, est peuplé à 95% d'Ahmadis. C'est leur ville-refuge et c'est là que nous avons rencontré Ikram. En novembre 2015, Ikram, 63 ans, travaillait dans une usine de contreplaqué quand une foule d'extrémistes sunnites, que vous entendez derrière moi, a débarqué et a incendié le bâtiment. Tout ça à cause d'une folle rumeur de blasphème que l'ouvrier nous raconte, encore choqué.
Le 20 novembre 2015, dans l'après-midi, la police a fait irruption dans l'usine de contreplaqué à Jhelum, où je travaillais. Ils m'ont accusé d'avoir brûlé des pages du Coran. Je leur ai dit que je n'avais rien fait de tel, qu'aucun incident de ce genre n'avait eu lieu ici. Les policiers ne m'ont pas cru et ont commencé à me frapper en me disant que je mentais. Il était alors près de 16h15. La police m'a emmené au commissariat avec mes deux fils.
En fait, vous étiez en train de brûler du bois et on vous a accusé de brûler un Coran.
Oui, mais les policiers ne voulaient pas me croire. Ils disaient, vous brûlez du bois, mais aussi le livre sacré. Comme preuve de ce qu'ils avançaient, ils m'ont montré des pages du Coran qui étaient brûlées sur les bords, mais pas au centre. Mais la cheminée de notre usine monte à une température de 1000 degrés. Donc je leur ai dit, comment est-ce possible qu'un papier ne brûle pas entièrement dans 1000 degrés, que le centre de la page soit intact?
Comment vous avez vécu ce moment d'être accusé de blasphème alors que vous n'y étiez pour rien?
En prison, j'ai été placé à l'isolement. Je ne pouvais voir ni parler à personne. Je me parlais à moi-même pour passer le temps. Cela reste un moment terrible dans ma vie.
Est-ce qu'ensuite vous avez été condamné par la justice ?
J'ai attendu un an avant que mon procès commence. C'était en 2016. Le juge m'a condamné pour blasphème à 25 ans de prison.
Ikram fait appel de cette condamnation pour blasphème. L'affaire est examinée par un juge plus modéré et Ikram est acquitté. Il décide de se réfugier ici à Rabwa, car au Pakistan, il ne fait pas bon avoir été condamné pour blasphème. De nombreuses personnes condamnées sont assassinées une fois sorties de prison.
Alors comme les chrétiens, hein, Géraldine, les Ahmadis du Pakistan sont très souvent jetés en prison pour blasphème et pire encore, ils sont victimes d'une campagne d'assassinat ciblée.
262 Ahmadis ont été assassinés ces dernières années, comme cet avocat tué devant son cabinet ou ce professeur exécuté dans son lycée devant ses élèves. Nous avons rencontré son fils. Il nous a expliqué que 9 ans après le meurtre, l'assassin n'a toujours pas été arrêté, alors que tout le monde sait qui c'est. Cruelle impunité. Shamim Ahmad Khalid est un officier de l'armée à la retraite. Il est Ahmadi lui aussi.
Presque tous ces assassinats ont eu lieu en public. Les assassins se sont enfuis, certains ont été identifiés, la police s'est rendue sur place, mais dans seulement 5% des cas, l'affaire a été jugée. La conséquence, c'est que les mollahs peuvent dire aux gens « Allez tuer des Ahmadis ». Je vous assure que dans un mois, vous serez remis en liberté.
I will ensure that you are out from the prison on bail.
Mis à part ces assassinats ciblés, il y a d'autres formes de persécution.
Dans tous les aspects de la vie, les Ahmadis rencontrent de grandes difficultés à leur travail, dans les affaires, à l'école, dans les médias. En matière de propriété, mon propre beau-frère, il était capitaine dans la marine. Il a construit une maison dans son village natal. Il vivait dans une grande ville. Quelqu'un a occupé sa maison et lui a dit « Je vais t'accuser de blasphème et tu iras en prison pour le reste de ta vie. » Mon beau-frère a dû renoncer à sa maison.
Et ces persécutions, Géraldine, contre les Ahmadis, elles sont quasiment légales.
Oui, car c'est écrit dans la loi pakistanaise que les Ahmadis ne sont pas musulmans, qu'ils n'ont pas le droit de posséder un Coran chez eux, ni même de dire salam alaikum, sinon ils risquent 3 ans de prison. Persécution légale, persécution d'État, dit Ousmane Ahmad, l'un des porte-parole de la communauté Ahmadi à Rabwa.
Ce niveau de haine ne peut venir que dans le lavage de cerveau. Parce que l'être humain n'est pas programmé pour haïr autant. C'est ce qui se passe au Pakistan. L'État organise la diffamation et la marginalisation des Ahmadis. Ça part du sommet. Nos lois et notre constitution vont dans ce sens. Nous sommes considérés comme des êtres à part. Et si les enfants apprennent cela dès 5 ans, dès qu'ils rentrent à l'école, dès qu'ils vont à la mosquée, ce niveau de haine devient normal. On ne peut pas les blâmer. Ils ont grandi avec ça. La question aujourd'hui, ce n'est pas de savoir si les Ahmadis sont musulmans ou non. La question, c'est de savoir si nous avons le droit d'exister au Pakistan.
Les damnés du Pakistan, Géraldine Allot, merci beaucoup. Un reportage que vous avez signé avec Clémence Bonfils et qu'on écoutera tout en longueur dimanche sur France Inter dans Interception. Dimanche donc, c'est à partir de 9h10. Merci beaucoup. Et tiens, on retourne à Bruxelles, non ?
Je suis venu vous parler d'Europe.
France Inter, le 18-20.
Così tanti clandestini in Italia non ci sono mai stati. Per l'Europa.
Un jour dans le monde.
Géniale.
On retourne à Bruxelles comme tous les jeudis. Retrouvez Angélique Boin, l'Europe, tu l'aimes ou tu la quittes. Bonsoir Angélique.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
Angélique, en Europe, on a commencé à voter. Évidemment, les deux premiers pays à mettre leur bulletin dans l'urne, ce sont évidemment les Britanniques qui ouvrent le bal, on en parlait tout à l'heure dans le journal. Et puis, il y a aussi les Pays-Bas.
Eh oui, alors chez nos voisins néerlandais, normalement, on vote le mercredi, jamais le dimanche, jour du Seigneur et du repos. Mais pour éviter d'étaler le scrutin sur une semaine, eh bien l'Union européenne a décidé de le concentrer sur 4 jours. Cela pour limiter les fuites qui auraient pu influencer les résultats. Tout le monde fait donc des efforts. Et aux Pays-Bas, on a accepté de troquer le mercredi pour le jeudi. Mais ça bouscule les habitudes. Pour permettre à ceux qui y travaillent d'aller voter, les bureaux de vote ont ouvert ce matin à 7h30, et resteront ouverts jusqu'à 21h. Alors dans ce pays, le dépouillement aura bien lieu ce soir, hein, mais les résultats officiels seront sous clé jusqu'à dimanche 23h, heure à laquelle ferment les bureaux de vote italiens. Les médias néerlandais, britanniques, peut-être ne se priveront pas de publier des sondages sortis des urnes, mais rien d'officiel. Demain, ce sont les Irlandais, les Lettons, les Maltais et les Slovaques qui iront voter pour 21 autres pays, dont le nôtre, ce sera dimanche. Rappelons que ce vote est obligatoire dans 5 pays, dont la Belgique, la Grèce, la Bulgarie, Chypre et le Luxembourg. En Grèce, on peut voter dès 17 ans, mais les Maltais et les Autrichiens font mieux, 16 ans, ailleurs c'est 18. Et puis pour être candidat, rappelons qu'il faut avoir 18 ans dans une quinzaine de pays, mais dans 10 pays, hein, comme la Pologne, il faut attendre 21 ans. Et la Palme, eh bien, ce sont les Italiens et les Grecs. Chez eux, on ne peut pas entrer dans l'hémicycle avant l'âge de 25 ans.
Angélique, des élections sur lesquelles les institutions ont mis un peu le paquet pour éviter ce que nous craignons tous, une trop forte abstention.
Oui, je peux vous dire que la cellule communication du Parlement n'a pas chômé hein, depuis plusieurs mois. Il faut dire que l'abstention fait peur dans beaucoup de pays. En 2014, le record, c'est la Slovaquie. 87% d'électeurs y avaient boudé les urnes. Et parmi les 12 pays qui se sont abstenus le plus, il y en a une dizaine de l'ex-bloc de l'Est, des jeunes démocraties, où le réflexe électoral n'est pas bien installé, selon plusieurs observateurs. Mais il y a aussi des pays fondateurs, comme les Pays-Bas, hein, où le taux d'abstention est assez fort. Près de 63% des Néerlandais n'avaient pas voté lors du dernier scrutin. Le Parlement a donc mobilisé 300 000 bénévoles, Fabienne, dans toute l'Europe, des Européens convaincus, recrutés dans les 28 pays via une plateforme internet baptisée « Cette fois je vote ». Depuis plusieurs semaines, ils organisent des événements politiques, culturels, ils tractent, ils poussent les citoyens à mettre un bulletin dans l'urne. Ces bénévoles ont touché le milieu associatif, des entreprises, des clubs sportifs. Un exemple, l'association de joueurs de football bulgare qui est devenue partenaire officiel des élections européennes. Des jeunes artistes ont également produit des vidéos sous-titrées en 24 langues et diffusées sur les réseaux sociaux pour tenter d'amanouer les jeunes. Selon un sondage du JDD, 74% des 18-25 ans disent qu'ils n'iront pas voter. Enfin, une application, Citizen Apps, fournit une mine d'informations sur ce que fait l'Europe. On a mis les moyens pour une élection qui intéresse peu. Ce qui a été compliqué aussi dans pas mal de pays, hein, c'est de trouver des assesseurs. Alors en Allemagne, on a réglé le problème. Ils seront payés. Chacun des 609 000 assesseurs recevra 25 euros.
Merci beaucoup, Angélique Boin, avec nous depuis Bruxelles. Angélique, on retrouvera évidemment très régulièrement tout le week-end au fur et à mesure que ces votes vont commencer dimanche et puis lundi aussi dans les émissions spéciales de France Inter, dont Un jour dans le monde d'ailleurs, qui s'intéressera évidemment de très près au vote, très spécifiquement de ces Européens. À quoi ressemblera ce Parlement? Qui va s'asseoir où? Qui aura de l'influence sur qui et à quel moment? On verra ça tous ensemble, donc au cours des prochains jours et puis donc lundi sur l'antenne de France Inter.
Le 18-20, Fabienne Synthès, sur France Inter.
Le Monde à l'envers et Jean Marfour. Jean-Marc, aucune trêve ne semble en perspective en Libye où les combats continuent. La visite à Paris du maréchal Haftar hier où il a rencontré Emmanuel Macron n'a rien donné du tout. Vu d'ici, on a tendance à regarder ce conflit comme une affaire interne à la Libye, une guerre civile entre milices libyennes dans ce pays en plein chaos, de toute façon d'ailleurs depuis un bout de temps. En réalité, c'est surtout en train de devenir une guerre par procuration entre puissances étrangères, et c'est votre monde à l'envers.
Oui, une guerre par procuration chasse l'autre, en fait. En Syrie, ça se termine avec une ultime offensive d'Assad sur Idlib, soit dit en passant un peu dans l'indifférence générale. La Russie, on le sait, est dans une moindre mesure l'Iran, et la Turquie sont les gagnants géopolitiques de ce conflit. Et la guerre par procuration suivante, en effet, a donc déjà démarré en Libye. C'est l'émissaire de l'ONU lui-même qui le dit. Hassan Salamé s'exprimait avant-hier soir à la tribune des Nations Unies. Il prédit, j'ai son discours là sous les yeux, une guerre longue et sanglante sur les rives sud de la Méditerranée. Pourquoi ? Parce que, dit-il ici, les armes coulent à flot venant de toutes parts. De nombreux pays, près d'une dizaine, fourniraient en fait des armes aux belligérants des deux côtés. La Libye, c'est d'abord devenu le terrain d'une rivalité entre pays musulmans. Le maréchal Haftar, dans son offensive vers Tripoli, est appuyé par l'Égypte et les Émirats Arabes Unis. Il voit en lui un allié dans la lutte contre les frères musulmans qui sont leurs ennemis. Et donc, il lui livre des armes, notamment des drones de fabrication chinoise. Dans une moindre mesure, l'Arabie Saoudite est également de ce côté. Dans le camp d'en face maintenant, le Qatar et la Turquie appuient le gouvernement de Sarraj, toujours reconnu par l'ONU. Il y a 5 jours, des dizaines de véhicules blindés turcs ont été ostensiblement livrés aux forces loyales au pouvoir dans le port de Tripoli, en violation d'ailleurs caractérisée de l'embargo sur les armes. Ajoutant enfin à ce paysage l'Algérie, inquiète elle aussi de la poussée d'Haftar, mais bon, les militaires algériens, ils ont quand même d'autres chats à fouetter en ce moment. Ça, c'est juste pour prendre la rivalité entre pays musulmans.
Donc vous voulez dire qu'il y a plus et même bien plus?
Oui, il y a aussi les grandes puissances qui avancent leurs pions en Libye d'une manière ou d'une autre. Les États-Unis surveillent à distance, l'Italie qui a des centaines de soldats sur le sol libyen est plutôt du côté de Sarraj. La France joue un peu sur les deux tableaux. Quant à la Russie, elle est plutôt derrière Haftar parce qu'il est russophone et que c'est un homme fort, ça plaît à Poutine. Des dizaines de mercenaires privés russes, peut-être davantage, seraient à ses côtés. On se résume, assistance militaire, interférence politique, n'en jetez plus, tout le monde s'en mêle. La Libye, pardonnez-moi l'expression, est devenue un terrain de jeu international et c'est pour ça que c'est parti pour durer.
Mais alors pourquoi, Jean-Marc, pourquoi tout le monde s'en mêle?
Parce qu'il y a au moins 3 enjeux qui intéressent tout le monde en Libye. Le premier, c'est le pétrole. Le pays, on le sait, est assis sur un tas d'or. Les plus grandes réserves pétrolières d'Afrique, une grande partie d'ailleurs déjà sous le contrôle du maréchal Haftar. Il s'agit donc de miser, passez-moi l'expression, sur le bon cheval pour passer les bons contrats qui vont bien ensuite. C'est en gros la stratégie de Moscou. D'ailleurs, les grandes entreprises russes comme Rosneft sont déjà prépositionnées. Le problème, c'est quand même qu'aujourd'hui, le pétrole, c'est plutôt une malédiction en Libye. Pourquoi ? Parce que c'est la ressource qui permet d'acheter les armes, précisément, donc de financer la guerre civile. Deuxième enjeu, les migrants. L'Europe a déjà déboursé 250 millions d'euros pour obtenir des Libyens. Quoi ? Et à qu'ils retiennent chez eux ces centaines de milliers d'Africains. On parle de 900 000 Africains qui cherchent à rejoindre l'Europe. Là encore, il s'agit donc de miser sur le bon cheval, le dirigeant qui acceptera de maintenir le deal. Petit souci là encore, entre-temps, la guerre civile peut évidemment déclencher une fuite éperdue des migrants vers la Méditerranée. Troisième enjeu enfin, les groupes terroristes. Depuis le chaos déclenché en gros en 2011 par l'intervention occidentale, notamment française, les terroristes islamistes ont prospéré en Libye. C'est l'une des raisons qui pousse là aussi les occidentaux à ménager le maréchal Haftar. Pourquoi ? Parce qu'il est réputé être sans pitié avec le groupe État islamique. Mais là encore, problème, comme les factions libyennes sont désormais occupées essentiellement à se faire la guerre, elles ne regardent pas ailleurs, les terroristes en profitent pour réapparaître dans le sud libyen. 4 attentats en 1 mois et demi, 17 morts, 8 enlèvements, là encore, décompte dévoilé avant-hier soir, je l'ai ici sous les yeux, à l'ONU par Hassan Salamé, qui redoute maintenant une propagation de cette violence terroriste vers les pays voisins.
Mais alors donc là, on voit bien Jean-Marc que ces guerres par procuration sont aussi extrêmement risquées.
C'est évident, mais pour tous ces pays que je viens de citer, le jeu en vaut quand même la chandelle. C'est cynique, mais c'est comme ça. Ça évite d'abord de se faire la guerre directement, ce ne sont pas vos soldats qui se font tuer, et puis en plus vous pouvez vous jouer les intermédiaires, avoir le beau rôle, les missions de bons offices, puisqu'officiellement, vous n'êtes pas parti au conflit. Il y a un autre exemple type, c'est le Yémen. L'Iran d'un côté, l'Arabie Saoudite et les Émirats de l'autre, là encore, guerre par procuration. Et vu la tension croissante, on le sait, dans le Golfe entre Iraniens et Américains, il est fort possible que Téhéran et Washington règlent leur compte dans les mois qui viennent, là encore morts par procuration. Ça peut être en Irak, ça peut être au Liban, ça peut être ailleurs. Les guerres par procuration, ça peut durer longtemps et ça fait surtout beaucoup de victimes.
Le Monde à l'envers et Jean-Marc Four, c'est tous les jours dans Un jour dans le monde. Jean-Marc, merci beaucoup. On se retrouve lundi. Nous, on reste ensemble pour le téléphone sonne, comme tous les soirs, pour la deuxième partie du 18-20. Juste avant, c'est le journal de Sébastien Paour. Ne bougez pas, on est là et on s'occupe de tout.